C'est toujours un privilège pour moi de prêcher la parole de Dieu, mais j'aime bien être avec vous. Et on ne peut pas avoir un thème comme Jésus sauve parfaitement sans parler de la lettre aux Hébreux. On a déjà parlé plusieurs fois de la lettre aux Hébreux, et cette lettre a été écrite aux églises persécutées. L'auteur voulait les encourager à rester fidèles à Jésus. Et pour atteindre son objectif, l'auteur employait deux types d'argumentation. L'argumentation positive et l'argumentation négative. L'argumentation positive est comme un sentier qui amène ses lecteurs au sommet de la christologie, où il se prélasse à la lumière des affirmations comme le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Où ton trône, ô Dieu, et il parle à Jésus, est l'Éternel. Chapitre 1, le verset 8. Et au milieu de ces sommets, nous aimons lire que Jésus est le grand prêtre d'une alliance plus excellente, établie par le serment de Dieu lui-même. Cette alliance plus excellente offre des promesses plus excellentes qui sont assurées par le sacrifice plus excellent de son grand prêtre plus excellent. D'accord? En ce qui concerne Jésus, tout est plus excellent. Il n'y a rien qui est mieux que Jésus. Mais ceux qui connaissent la lettre savent aussi qu'elle amène ses lecteurs aux sombres vallées menaçantes et difficile à comprendre. Ça, c'est le côté négatif. Je ferai référence, bien sûr, aux cinq passages qui mettent en garde les lecteurs de la lettre. C'est ces passages. Hébreux, chapitre 2, les versets 1 à 4, chapitre 3, le verset 6, jusqu'à chapitre 4, le verset 13, chapitre 6, les versets 1 à 12, chapitre 10, les versets 26 à 31, et chapitre 12, les versets 25 à 26. Ce sont des versets qui peuvent être assez terrifiants pour nous. Et face à ces passages, nous nous posons tout de suite une question. C'est quelle question? Un vrai chrétien peut-il perdre son salut? Et si nous faisons partie de cette église, 2 secondes après, nous disons quoi? Non! En citant des textes qui viennent d'autres parties du Nouveau Testament. Je suis convaincu que ces deux réflexes ne sont pas les meilleurs réflexes. La bonne question face à ces passages est: quel but l'auteur veut-il atteindre par ses avertissements? Qu'est-ce qu'il veut faire dans mon cœur par ce qu'il dit? Si nous commençons par la question sur la perte du salut, nous risquons d'atténuer la force des avertissements. Et si nous commençons en citant des passages externes pour répondre à cette question, nous restons toujours avec la question, mais qu'est-ce que ces passages-là disent? Je propose donc que nous essayions de trouver le but des passages d'avertissement dans le contexte de la lettre écrite aux Hébreux. Nous le ferons en considérant 4 éléments d'un avertissement. D'accord? Quels sont les 4 éléments d'un avertissement? On a la mauvaise conséquence, l'action qui fait l'objet de l'avertissement, la personne à qui est adressé l'avertissement et la réponse attendue. Chaque fois qu'on a un avertissement, on a ces 4 choses. Une mauvaise action, pardon, la mauvaise conséquence, l'action qui fait l'objet de l'avertissement, la personne à qui est adressé l'avertissement et la réponse attendue. Et nous allons, avec l'aide de Dieu, traiter ces quatre choses pour comprendre ce que voulait dire cet auteur. Mais pour vous éviter un sermon qui dure 2 heures, nous limiterons notre considération aux 2 passages qui sont les plus difficiles, chapitre 6 et chapitre 10. Lisons ces passages ensemble avant de commencer. Nous allons commencer la lecture au chapitre 6 et on va lire les 12 premiers versets. Et après, nous allons lire chapitre 10, les versets 26 à 31. L'auteur de cette lettre a écrit: c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le chapitre 10, à partir du verset 26. Chapitre 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit et de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Merci Dieu pour ces paroles. Et ce sont les paroles de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous allons considérer d'abord la mauvaise conséquence. C'est quoi la mauvaise conséquence? Au chapitre 6, en hébreu, les versets 4 à 6, nous voyons dans ces versets la conséquence de tomber, c'est d'être dans un état où on ne peut pas être renouvelé ni amené à la repentance. Ça, c'est le verset 6. Il est impossible, soit encore renouvelé et amené à la repentance. Étant donné que l'enseignement universel du Nouveau Testament dit que la repentance est nécessaire pour le salut, ce verset dit que la mauvaise conséquence est la damnation. Et cette conclusion est supportée par l'image trouvée au verset 8 de la terre mise au feu. Et on finit par y mettre le feu. Ça, c'est la condamnation, la damnation. Et ça, c'est la mauvaise conséquence. Et au chapitre 10, d'accord, on va regarder les deux passages, l'un après l'autre, d'accord? À chapitre 10. Quelle est la mauvaise conséquence? Dans ces versets, l'auteur décrit la mauvaise conséquence en utilisant les mots comme un terrible jugement, verset 27. L'ardeur d'un feu qui dévorait, verset 27. La vengeance et la rétribution de Dieu, les versets 27 et 30 et 31. À la lumière du fait qu'il ne reste plus de sacrifices pour les péchés, verset 26, le jugement, le feu, la vengeance et la rétribution doivent faire référence à quoi? À la damnation, à la condamnation, au jugement de Dieu. Ces passages indiquent que l'auteur avertit ses lecteurs à propos d'une seule mauvaise conséquence. La damnation par Dieu. Ça, c'est grave. Il ne dit pas, vous ne pouvez pas venir à l'église pendant un mois. Il ne dit pas, vous devez être puni pendant 6 mois, 1 an. Il parle de la damnation de l'âme. C'est une mauvaise conséquence. Et il parle aux personnes qui assistent souvent à l'église. Ça, c'est un avertissement pour nous. Trouvons-nous dans ces passages l'action qui mérite cette damnation? C'est quoi, deuxièmement, l'action qui fait l'objet de l'avertissement? Oui, c'est clair. Regardez avec moi chapitre 6, d'accord? Pour trouver l'action qui fait l'objet de l'avertissement, au chapitre 6, nous devons considérer la conclusion du passage où l'auteur dit, verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Le prochain verset, le verset 10, nous donne un synonyme et un mot de sens contraire de cette action prescrite. Le sens contraire au verset 12, c'est quoi? En sorte que vous ne relâchiez point la foi. D'accord? Et le synonyme, c'est quoi? Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. L'action qui fait l'objet de l'avertissement ici, donc, est d'abandonner la foi, de cesser à croire la bonne nouvelle, de dire, j'estime que c'est faux. Je le laisse tomber. Maintenant, au Hébreux 10, d'accord? Qu'est-ce que dit l'auteur au chapitre 10? Les mots « Péchons volontairement », le verset 26, nous présente tout de suite l'action qui fait l'objet de l'avertissement dans ce passage. Et l'auteur nous illustre plus précisément ce qu'il veut dire par le verbe « pécher volontairement » au verset 28. D'accord? Celui qui a violé la loi de Moïse. Ça, c'est qui? Ça, c'est tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Suivez-moi. Cette traduction n'est pas correcte parce qu'elle cache la nature définitive de ce que la personne fait. Le même verbe se trouve en Marc chapitre 7 et le verset 9, où Jésus dit, Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est-à-dire, en préférence d'avoir vos propres traditions, vous avez rejeté la loi de Dieu. Ça, c'est notre mot, rejeter. Encore une fois, on trouve ce mot en Galates, chapitre 2. Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il ne met pas à côté la grâce de Dieu. Et en Jude 8, on trouve le mot aussi. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. C'est-à-dire quoi? Quand ils regardent les autorités, ils disent, je m'en fous de vous. Vous pouvez dire n'importe quoi. Bon, ok, mais je vais faire ce que je veux. Je rejette votre autorité. Avec cette compréhension du mot dans nos esprits, cette action au chapitre 10 de la lettre aux Hébreux est clairement la mise à côté exprès de la bonne nouvelle à cause d'un certain mépris. Cette compréhension est soutenue par Hébreux 10 et le verset 29, où il écrit « La personne foule aux pieds le Fils de Dieu, tient pour profane le sang de l'Alliance de Jésus et outrage l'Esprit de la grâce. » C'est clair que pécher volontairement ne fait pas référence à ceux qui luttent contre la colère, ceux qui luttent contre le commérage, ceux qui luttent contre l'attirance envers les choses qui sont impures. Mais si vous êtes une personne qui peut dire à Dieu, je m'en fous, hein? Dieu, tu peux dire n'importe quoi, je fais ce que je fais. Vous êtes une personne en danger. Parce que vous péchez contre la loi de Dieu exprès et avec un cœur endurci. C'est mauvais, vraiment, oui, de se mettre en colère. Mais si on lutte, c'est parce qu'on écoute à Dieu. Mais dès qu'on dit non, Dieu, nous sommes en danger. Et rappelons-nous que ces chrétiens étaient sous la persécution. Aujourd'hui, c'est facile de venir à l'église, n'est-ce pas, d'assister au culte. Et en fait, même si je ne suis pas vraiment intéressé en Dieu, je peux venir, je peux faire la vie de l'église parce que c'est agréable à moi. Mais dès qu'une personne dit, vous pouvez être emprisonné ou même tué. On a une décision, n'est-ce pas? Écouter ou rejeter. Et ça, c'est l'expression de notre péché volontaire ici. L'offense dans ce passage est très spécifique. C'est le rejet de Jésus comme source du salut par quelqu'un qui le professait avant. C'est une personne dans l'Église qui disait avant, oui, je suis chrétien, mais dès que la pression arrive, non, je m'arrête. C'est fini, je laisse tomber. Nous trouvons dans ces deux passages quatre éléments. Une personne, l'Évangile, une foi initiale et un rejet définitif de l'Évangile. Ce sont les quatre parties qu'on trouve dans ces passages. Une personne, la bonne nouvelle, une réponse de foi initiale et à la fin, un rejet définitif. Et dans tous les cas, l'action avertie est le rejet définitif de la bonne nouvelle. Ce résumé soulève une question importante. L'avertissement a été écrit à qui? Ça a été écrit à qui? Nous considérons maintenant la personne à qui est adressée cette lettre. Le troisième point, la personne à qui est adressée l'avertissement. au chapitre 6. D'accord? On est ensemble. Dans ce passage, l'auteur fait référence à ceux qui sont avertis par les pronoms généraux. Ceux, chapitre 6, verset 4, et ils, le verset 6. D'accord? Ces personnes sont décrites d'une manière frappante. Une fois éclairées, goûtées le don céleste, participer au Saint-Esprit et goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Cette description nous fait penser à qui? À un chrétien, une chrétienne. D'accord? L'utilisation de « vous » après au verset 9 à 12 montre que l'auteur considère que ses lecteurs ne font pas partie de ceux qui abandonnent la foi en Christ. Mais il les encourage de montrer le même zèle pour conserver leur foi. C'est-à-dire, il parlait de ce groupe-là. Il dit « eux, ils » et avec une description, goûter le don de Dieu, le don céleste, participer au Saint-Esprit, etc. Mais après, il dit « vous ». Et ça nous indique qu'il parle dans sa tête au moins à une seule église, ou plusieurs églises, où il y avait deux groupes de personnes. Des personnes, quand il pensait à ces personnes-là, il disait, non, je suis persuadé que vous allez persévérer. Mais il y a ceux qui abandonnent Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10. Maintenant, dans ces versets, l'auteur utilise le pronom « nous » au verset 26, et plus tard, il écrit d'une manière plus générale de « celui », le verset 29. Au verset 30, il dit que « nous connaissons celui qui a dit », il parle de Dieu. Tout cela nous implique que l'avertissement est donné à tous ceux qui lisent la lettre, ou écoutent la lettre à cette époque-là. C'est-à-dire, si vous écoutez maintenant la parole de Dieu écrite dans la lettre aux Hébreux, ou si vous le lisez dans votre Bible, l'avertissement est pour vous. Il est pour vous. D'accord, je vais résumer maintenant, pour être ensemble. D'accord. Dans ces passages, l'auteur donne ses avertissements à tout le monde. D'accord, les églises, chaque personne doit recevoir l'avertissement. Au chapitre 10, l'utilisation du pronom « nous » indique que l'avertissement est pour tous. Et nous trouvons l'utilisation de « nous » au chapitre 2 aussi. Et il adresse l'avertissement aux frères saints au chapitre 3. Personne ne peut dire « ce n'est pas pour moi, c'est pour nous ». La description trouvée au chapitre 6 nous fait penser aussi que l'avertissement cible tout le monde. Le fait que l'auteur dise « ce » et il implique que même s'il a crié à tout, il sait qu'il y a parmi ses destinataires deux groupes. Il attend des choses meilleures, mais il écrit à tous parce qu'il juge que tous ont besoin d'être avertis. Nous pouvons maintenant répondre à la question posée au début, d'accord? On retourne au début. C'est quoi la question? Quel but l'auteur veut-il atteindre par ses avertissements? Ces passages montrent que l'auteur veut inciter chaque personne à évaluer son état spirituel. Ça, c'est le but. Chaque personne ici dans cette salle, la Bible veut que vous évaluez votre état spirituel. Il veut que vous évaluez si vous êtes une personne qui est en danger. D'accord? Personne ne peut présumer qu'il n'ait pas besoin d'être averti. La pression d'abandonner Jésus révèle si on est parmi ceux qui se retirent pour se perdre ou si on est parmi ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, selon chapitre 10, le verset 39. Et nous pouvons dire oui, on n'a pas la persécution aujourd'hui. Et c'est vrai, merci Dieu. Mais vous savez qu'il y a des pressions quotidiennes qui nous poussent à quitter Christ, n'est-ce pas? Les désirs de nos chairs, mais aussi la pression de notre société de dire, bon, Christ, c'est un faible, c'est un mythe. Où ils disent, vous devez être libre, faire ce que vous voulez. Et les enfants, d'accord? Ça, c'est ce que l'État vous enseigne dans les écoles. Mais la Bible vous dit, écoutez la parole de Dieu. Si vous abandonnez Christ, ce n'est que la damnation qui vous attend. D'accord? C'est un message terrible, n'est-ce pas? N'atténuons pas la gravité de ces avertissements. Laissons-les nous rendre vigilants contre toute diminution de notre confiance en Christ, sachant qu'il ne nous reste aucun salut si nous rejetons Jésus-Christ, le grand prêtre, plus excellent. On est laissé avec rien sans Jésus. Bon, après avoir pris au sérieux le but de l'auteur, que l'auteur veut atteindre par ses avertissements, nous pouvons poser la question. Un chrétien peut-il perdre son salut? S'il parle à tout le monde et il parle à ceux qui assistent au culte, est-ce que ça veut dire que vous êtes, vous qui se disent, bon, je sais, vous que se disent, vous, ouais, vous savez, hein? Désolé, hein? Je suis perdu dans le français. Bon, il parle à l'Église, il dit à l'Église, vous êtes en danger si vous abandonnez Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'un vrai chrétien peut abandonner Jésus? Par chrétien, nous signifions une personne qui a vraiment expérimenté le commencement d'une vie vraie, une vraie vie chrétienne, d'accord? Il me semble que l'avertissement du chapitre 6 est le plus troublant en ce qui concerne cette question parce que nous supposons que l'auteur décrit un vrai croyant quand nous lisons ces descriptions. Une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, participé au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. L'auteur dit que si ce genre de personne tombe, elle ne peut pas être renouvelée ni amenée à la repentance. Sa chute sera définitive. Que ferons-nous avec ces versets? Bon, nous devons les interpréter dans le contexte de la lettre, n'est-ce pas? De la lettre entière. Et trois observations nous aideront à interpréter correctement l'avertissement du chapitre 6. D'accord? Nous allons faire maintenant trois observations. La première observation, c'est la définition d'un chrétien selon la lettre aux Hébreux. D'accord? D'abord, nous devons noter que l'auteur définit vers le début de sa lettre ce qu'est un chrétien. L'auteur suppose que la lettre sera lu comme une lettre normale, c'est-à-dire, on commence par le début, on ne commence pas à la fin, par la fin ou par le au milieu. Nous pouvons constater aussi que l'argumentation de la lettre n'est pas faite au hasard. Ce qui est écrit au début est nécessaire pour comprendre ce qui est écrit plus tard. L'auteur ne veut pas donc que nous sautions au chapitre 6 sans avoir compris ce qu'il écrit aux cinq premiers chapitres. Alors, on est ensemble, je pense. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce matin, je vais lire chapitre 6. Non, il faut garder le contexte à l'esprit. Cela dit, notons deux versets importants au chapitre 3 qui doivent éclairer notre interprétation du chapitre 6. Nous commençons chapitre 3, avec le verset 6, d'accord? mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'auteur, dans ce verset, parle au présent. Les mots « c'est nous » dit que nous sommes maintenant la maison du Christ au présent. Si nous sommes caractérisés par quelque chose au présent, c'est quoi? Le fait de conserver de la foi chrétienne. Autrement dit, une personne qui ne croit pas n'est pas chrétienne. C'est un truisme, mais c'est vrai. Une personne qui ne croit pas au présent n'est pas chrétienne. Vous le voyez dans le verset. Je pense que c'est clair. Et sa maison, c'est nous au présent, pourvu que nous retenions au présent, et le fermement jusqu'à la fin, c'est dans les... c'est quoi ça? Les crochets. Parce que dans les manuscrits grecs, en fait, on pense que ça vient du verset 14. Et d'accord, il a inséré ces mots ici parce qu'on on voit une correspondance entre les deux versets. Mais dans le verset 6, il parle du présent. Il met l'accent sur le présent. C'est nous, maintenant, au présent, pourvu que nous retenions au présent la confiance et l'espérance dont nous glorifions. Voilà, ça c'est l'enseignement de ce verset. Maintenant, regardons au verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et dans ce verset, nous avons deux temps différents. Nous avons le passé, nous sommes devenus, d'accord, qui indique un événement passé qui dure au présent. Et nous avons le futur si nous retenions jusqu'à la fin. Selon la logique du texte, d'accord, on suit la logique du texte. Leur participation au Christ commencée dans le passé produira une foi ferme dans l'avenir. Nous pouvons aussi dire l'inverse. Une foi future est le fruit d'une participation au Christ dans le passé. Et un homme qui s'appelle Carson, il a écrit ces mots, et je les ai trouvés très utiles. Si le fait de persévérer montre que nous sommes déjà devenus participants de Christ, cela n'est possible que parce que la participation au Christ a inévitablement pour fruit la persévérance. Cette vérité doit éclairer notre compréhension des avertissements. Ces passages ne peuvent pas indiquer qu'un chrétien perd son salut parce qu'un chrétien, par définition, c'est qui? C'est quelqu'un qui persévère dans la foi. Une personne qui se détourne du Christ est une personne qui n'a jamais cru en Christ. D'accord? Ça, c'est la définition au chapitre 3 qui doit contrôler notre interprétation du chapitre 6 et 10. D'accord? Vous êtes avec moi, il semble, j'espère. Deuxième observation. La nature de ceux qui abandonnent Jésus. D'accord? Retournez au chapitre 6. La nature de ceux qui abandonnent Jésus. Nous pouvons observer cette nature au chapitre 6, les versets 7 et 8. Ces versets sont souvent très troublants pour les chrétiens parce que nous supposons que les descriptions de la personne concernée signifient qu'elle est vraiment chrétienne. Mais rappelons-nous que le contexte détermine la signification des mots. D'accord? Commençons donc par le contexte. Nous avons déjà noté que l'auteur définit un chrétien comme quelqu'un qui persévère dans la foi. Ça, c'est le contexte général. Regardez maintenant au verset 7. Quel est le premier mot du verset 7 dans vos Bibles? Lorsque, d'accord? C'est lorsque dans la version nouvelle édition Genève. Mais en grec, les versets 4 et 7 commencent par le même mot qui communique un lien logique. Quel est le premier mot du verset 4? Bon, ça c'est 3. C'est à cause de ça. Chapitre 6, le verset 4, c'est « car ». En fait, c'est le même mot dans les deux versets. Au verset 4, il est traduit « car ». Et c'est mieux d'utiliser le mot « car » au début du verset 7 pour montrer qu'il y a un lien logique entre ces versets. C'est-à-dire, il a écrit le verset 7 pour expliquer ce qui est déjà écrit, d'accord? Quel est le lien logique entre les versets 7 et 8 et les versets 4 à 6? Les versets 7 et 8 expliquent par illustration ce que disent les versets 4 à 6. Les versets 4 à 6 enseignent qu'une personne qui reçoit les bénédictions de Dieu sans produire le bon fruit, une foi qui dure, sera condamnée. Cette vérité est illustrée par deux lopins de terre. Les deux reçoivent la bénédiction de Dieu, la pluie. Souvent, l'un d'eux produit le bon fruit, l'autre le mauvais fruit. Celui qui ne produit pas le bon fruit sera condamné. On y met le feu. La différence entre les deux lopins de terre n'est pas les bénédictions reçues, mais la nature de quoi? De la terre. Est-ce que cette illustration vous fait penser à une parabole du Seigneur? Oui. Oui, c'est la parabole de semeur. Marc 4, 1 à 9, avec l'explication, les versets 13 à 20. Selon Jésus, il y a des personnes qui reçoivent la parole même avec joie et qui produisent le fruit pour un temps. Il dit... Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survit une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il me semble que l'auteur de cette lettre a bien compris l'enseignement du Seigneur. Une personne peut expérimenter des bénédictions spirituelles de Dieu sans devenir un chrétien. Et on a un exemple. Il s'appelle quoi? Judas. Cette conclusion s'accorde bien avec la définition d'un chrétien donnée au chapitre 3. Ça, c'est la deuxième observation. Et maintenant, la troisième observation. La nature du salut selon la lettre aux Hébreux. L'avertissement du chapitre 6 doit être interprété à la lumière de l'enseignement général de la lettre sur la nature du salut. Nous savons tous que le cœur de cette lettre met en contraste deux sacerdoces différents. Sacerdoce, c'est le fait d'avoir les prêtres, d'accord? On a le sacerdoce, les prêtres lévitiques, sous Moïse, et on a Jésus qui est le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Ces deux sacerdoces sont les bases pour deux alliances différentes, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Au chapitre 7 à 10, l'auteur souligne la différence entre ces deux alliances en mettant l'accent sur trois choses, d'accord, qu'on vous lisez après. Il met l'accent sur quoi? Sur la perfection. Qui peut être parfait? Et la présence de Dieu qui exige la perfection et la conscience de l'homme. Et on a besoin d'une solution pour ces trois choses. Et c'est Jésus, bien sûr. Au chapitre 10, nous voyons que l'ancienne alliance ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Ça c'est le verset 1. Mais la nouvelle alliance peut le faire grâce au sacrifice parfait de Jésus, le verset 14. Chapitre 10, le verset 14. Que signifie cette perfection? L'auteur nous dit en Hébreu, chapitre 10, les versets 16 à 17, d'accord, dans vos Bibles, chapitre 10, les versets 16 à 17, où il parle de deux promesses de la nouvelle alliance basée sur Jésus. Quelles sont ces promesses? La régénération et le pardon des péchés. Dieu le Père amène les disciples de Jésus à la perfection dans le sens où il écrit ses lois sur le cœur et il pardonne complètement leurs péchés. Nous voyons ici l'aspect interne du salut. Si le salut n'est qu'une transaction externe, par exemple, où une personne met sa foi en Christ pour recevoir le salut du Christ, nous pouvons imaginer un scénario où la personne peut retirer sa foi et Christ, en réponse, peut retirer son salut. C'est une transaction externe. Mais le salut est plus qu'une transaction externe. Le salut est une œuvre interne où Dieu met un cœur de chair dans une personne selon la prophétie d'Ézéchiel. Nous pouvons également appeler cette œuvre la nouvelle naissance où Dieu génère la vie indestructible de Christ dans une personne. Cet aspect de la nouvelle alliance la rend mieux que l'ancienne alliance parce qu'une personne est rendue capable par ce nouveau cœur de rester fidèle à l'alliance. Cette œuvre interne assure qu'un chrétien, une chrétienne n'abandonne jamais son assurance ni son espérance. Cette lettre enseigne qu'un chrétien, par définition, croit en Jésus jusqu'à la fin parce que Dieu l'a régénéré. Il n'est pas donc possible pour un chrétien de perdre son salut parce que Jésus sauvera tous ceux qui croient en lui. Mais l'avertissement au chapitre 6 nous dit qu'une personne peut être si proche et si éloignée à la fois, comme un homme, comme Judas. La participation aux bénédictions spirituelles de Dieu n'est pas un signe sûr qu'une personne est chrétienne. C'est pourquoi l'auteur de la lettre a inclus ces avertissements. Il veut que ses lecteurs répondent d'une manière spécifique. Vous avez vu au début, on a quatre éléments d'un avertissement. La mauvaise conséquence. L'action qui fait l'objet de l'avertissement. La personne à qui était adressé l'avertissement. Et maintenant, la réponse. Parce qu'on avertit pour avoir une réponse. Quelle est cette réponse? Elle n'est pas difficile à trouver. Chapitre 6, les versets 1 à 12. L'auteur dit au verset 11 et 12 que nous devons montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance afin que vous ne vous relâchiez point. C'est quoi la réponse? Croyez-vous au présent. Croyez. Il ne dit pas, soyez parfait. Il ne dit pas, ajoutez les œuvres afin que vous puissiez être bon, mériter la grâce de Dieu. Il dit non, croyez-vous au présent. Si vous êtes ici et vous ne croyez pas en Jésus-Christ, votre réponse, c'est quoi? Croyez. Croyez ce que dit Jésus. Si vous rejetez ce que dit Jésus, vous n'avez aucune espérance. Aucune. Hébreux chapitre 10. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? L'auteur nous dit clairement son attente. Les versets 25 et 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. Dans ces passages, nous avons une seule réponse sollicitée. Une foi persévérante. Tous ces avertissements sont écrits pour exhorter les destinataires à continuer de croire en Jésus parce qu'une foi persévérante est la seule foi qui sauve. Une foi persévérante, c'est la seule foi qui sauve. Ça, c'est le message de la lettre aux Hébreux. Mais avant de conclure le message, je veux répondre à trois questions. D'accord? Trois questions. La première question est, la persévérance de la foi annule-t-elle la grâce? C'est-à-dire, par la persévérance, est-ce qu'on gagne quelque chose? Est-ce qu'on mérite? La réponse simple est non, parce que la foi n'est pas une œuvre. Si la foi exercée pour devenir un chrétien n'est pas une œuvre qui annule la grâce, il n'est pas possible pour la foi exercée après la conversion d'être une œuvre qui annule la grâce. C'est logique. La foi n'est pas une œuvre. Et donc, ça annule pas la grâce. La deuxième question est, peut-on avoir l'assurance du salut pendant cette vie s'il faut retenir la foi jusqu'à la fin pour hériter la promesse? Est-ce qu'on peut avoir l'assurance maintenant? Notez ce que l'auteur dit, écrit dans sa lettre. Par exemple, au chapitre 3, le verset 1, il les appelle frères saints. Ça veut dire quelque chose. Ils pensent, ils considèrent qu'ils sont des chrétiens. Il dit qu'ils sont devenus participants de Christ en Hébreux chapitre 3, le verset 14. Ça, c'est son estimation à lui-même. Mais ils pouvaient penser la même chose. Il les encourage de s'approcher de Dieu avec quoi, au chapitre 4, le verset 16? Avec assurance. Ils peuvent avoir l'assurance. Chapitre 6, le verset 9, il dit qu'il attend pour ce qui les concerne des choses meilleures et favorables au salut. Il dit en Hébreux, chapitre 10, le verset 39, que nous ne sommes pas de ceux qui retirent pour se perdre. Il y avait un certain niveau de confiance en ce qui concerne ces personnes. Et nous, nous pouvons avoir l'assurance aussi, mais ça exige la persévérance. Nous devons savoir que l'assurance du salut ne vient pas de l'activité, la foi, mais de l'objet de la foi qui est Jésus. Si vous êtes convaincu que Jésus est votre seule source de salut et qu'il est parfait, ce qu'il a fait, il a accompli parfaitement, vous avez toute la confiance qu'il faut. Parce que c'est attaché à qui? À Jésus. Et c'est parce qu'il vit à jamais qu'il peut nous sauver à jamais. Notre confiance, notre assurance est liée avec lui. Dès qu'on cesse à croire, on perd notre assurance. Tant que nous restons attachés à Jésus par la foi, nous avons l'assurance ferme d'être sauvés grâce au ministère plus excellent de Jésus le grand prêtre. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour persévérer dans la foi? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est difficile. Hein? C'est difficile, jour après jour, de rester fidèle à Jésus, de ne pas suivre la chair, de ne pas suivre le monde. Qu'est-ce que la lettre aux Hébreux nous dit? Il dit ces choses. Nous devons écouter la Bible régulièrement et soigneusement. Si vous avez des doutes et vous ne lisez pas votre Bible, le premier pas, c'est de lire la Bible. Et, non, je ne veux pas. Non, c'est pas gentil. Hein? Mais c'est normal, c'est logique. Lisez ce que dit Jésus. Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, l'enseignement, l'histoire de l'Évangile, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est comme un bateau dans l'eau qui, si on ne veille pas, on se trouve au milieu de l'Atlantique. Hein? Il faut faire attention. Encore, Hébreux 5, 11 à 12. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Le problème n'est pas la Bible, le problème c'est chez nous. Quand nous devenons lents à comprendre. Vous en effet, depuis longtemps, devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Et c'est un défi pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à enseigner les autres? Je ne parlais pas de manière publique comme ça, mais est-ce que êtes-vous un chrétien, une chrétienne pendant 10 ans, mais vous ne pouvez pas expliquer ce qu'est l'Évangile? Ce qui sont les doctrines fondamentales? Si ça c'est le cas pour vous, vous êtes devenu lent à comprendre. Il faut travailler, il faut avancer. Et vous voyez, avec le progrès, l'amélioration de votre connaissance, vous aurez de plus en plus de l'assurance. Ça, c'est la première chose. Nous devons écouter la Bible régulièrement et soigneusement. 2, nous devons méditer sur la vie de Jésus. Ça vient avec la lecture de la Bible, mais il faut méditer. Hébreux 3.1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est qui? C'est Jésus. Il dit plus tard, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si vous êtes découragé, considérez la vie de Jésus et comment il a souffert. Et il est pour nous un exemple. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, nous devons veiller avec acharnement à notre esprit, notre état spirituel. Hébreux 3:12, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et je sais que dans cette salle, il y a des personnes très différentes. Il y a des personnes qui sont toujours en train de regarder dedans, d'essayer de juger leur position. D'accord? Il y a d'autres personnes qui, une fois par an, ils pensent à leur état spirituel. Ils ne sont pas des personnes qui essaient de comprendre eux-mêmes très, très profondément et très souvent. Nous tous avons besoin de regarder dedans pour voir l'état de notre esprit. Mais on ne peut pas arrêter avec l'introspection parce qu'il faut continuer à regarder à Jésus. Toujours à Jésus. Mais, mes frères et sœurs, veillez sur vos cœurs. Aimez-vous le monde. Aimez-vous les choses du monde. Est-ce que vous préférez être avec le monde et pas avec Christ dans sa parole? Est-ce que vous préférez vos amis non chrétiens? Pas parce que vous voulez les gagner, mais parce que en fait, ils parlent plus des choses que vous plaît, qui vous plaît. Non. Regardez ce qui est dans votre cœur. Aimez-vous Jésus? Il dit aussi, chapitre 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, d'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a une sainte crainte pour un chrétien. Plus tard, verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. On ne peut pas agir comme c'est toujours les vacances. Il faut travailler. Il faut agir. Il faut lire la Bible. Il faut prier. Il faut être avec la peuple de Dieu. Nous empressons. Chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. On a l'obligation de rejeter nos fardeaux qui nous bloquent, qui nous empêchent de suivre Jésus. Quatrièmement, nous devons prier régulièrement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parlez-vous à Dieu régulièrement. Il dit plus tard, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, priez. Cinquièmement, nous devons nous soumettre au ministère des frères et des sœurs. Il dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voulez-vous persévérer dans la foi? Vous avez besoin de l'Église locale. Il y a des personnes, Timothée vient de me raconter l'histoire d'une personne que je connais. Elle dit, j'ai pas le sentiment que je suis sauvé, donc c'est difficile pour moi d'y aller assister au culte. Elle a besoin d'assister au culte avec les autres pour avoir l'assurance et les sentiments rassurés. Vous ne pouvez pas gagner l'assurance en s'éloignant de le peuple de Dieu. Vous avez besoin d'être exhorté par les autres, et moi aussi. Chapitre 10. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et bonnes œuvres. Comment? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Faisons-nous l'effort pour être avec le peuple de Dieu. Et sixièmement, nous devons nous confier à la souveraineté de Dieu. D'accord? Parce que, rappelons-nous, c'était des églises, des chrétiens sous la persécution. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut penser quand la persécution arrive? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'était la souffrance qui était la tentation. Abandonner Jésus parce que la souffrance est arrivée. Mais il dit non. Confiez-vous à la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est derrière la persécution. Et c'est un châtiment d'un père, pas la punition d'un juge. Est-ce qu'on peut accepter la souveraineté de Dieu derrière les causes de nos souffrances. Parce que c'est un père qui châtie ses enfants. Nous pouvons persévérer grâce à Dieu. Et c'est à travers ces moyens de grâce et d'autres que Dieu nous préserve. Que Dieu nous aide à persévérer. Et si vous êtes, je veux parler à vous si vous êtes venu ce matin et vous savez que vous n'êtes pas chrétien. Vous savez qu'au fond de votre esprit, vous avez cette idée, je m'en fous de ce que Dieu dit. Je vais faire ce que je veux. Oui, je peux assister, mais c'est pas Dieu qui règne dans ma vie, non, c'est moi. Dieu vous dit, croyez-vous en Jésus-Christ. Repentez-vous et croyez-vous en Jésus-Christ. L'offert est là pour vous. Et pour nous qui venons dimanche après dimanche, nous pouvons avoir l'assurance, mais seulement en qui? Christ, il est notre seule espérance. N'abandonnons pas donc notre espérance, Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Céleste, nous avons besoin de toi. Ces paroles sont sévères et dures, et nous avons besoin d'être châtis comme ça. Nous ne voulons pas suivre le monde. Nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas abandonner Jésus-Christ. Mais nous confessons notre propre faiblesse. C'est à cause de ça que nous disons à toi, Père, garde-nous. Aide-nous à croire et à persévérer dans la foi. Et que Jésus soit glorifié comme la seule personne qui est digne d'une telle foi. Amen.